France Inter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Inter. C'est l'un des paradoxes français. Nous avons l'une des politiques antidrogues les plus répressives d'Europe, mais nous nous distinguons par une consommation de stupéfiants bien supérieure à celle de nos voisins. Cannabis, cocaïne, drogue de synthèse, la liste n'est pas exhaustive. En 2024, les infractions liées aux stupéfiants ont encore augmenté, plus 10% pour l'usage, plus 6% pour le trafic. Qui plus est, le marché est devenu plus sophistiqué avec des livraisons à domicile, les Uber Sheet, les Airbnb ou encore les pubs sur les réseaux sociaux. Selon le rapport 2025 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 900 000 personnes consomment du cannabis chaque jour. La cocaïne en forte hausse touche, elle, plus d'un million d'usagers chaque année. Derrière ces chiffres, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les territoires. Pendant ce temps, la réponse publique reste la même, sécuritaire, entre répression et opération place nette. Malgré ça, le marché prospère. Chaque année, le narcotrafic rapporte en France 7 milliards d'euros aux criminels. Face à ce constat, le débat se crispe et les compositeurs sont de plus en plus stigmatisés. Les consommateurs sont de plus en plus stigmatisés, pardon. Le gouvernement multiplie les campagnes choc, mais les professionnels de santé notamment s'inquiètent. Cette culpabilisation éloignerait les usagers des soins sans pour autant réduire les risques. Alors, entre répression, soins et la prévention, d'autres politiques sont-elles possibles? Eh bien, on en discute jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi. Saskia Deville.
Chers auditrices et auditeurs, vous pouvez bien sûr participer comme chaque jour à ce débat de midi. Vos questions, vos témoignages, ça se passe sur l'application Radio France ou envoyez-nous des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin, ce midi, pour débattre ici autour de la table, Nelly David. Vous êtes directrice générale de Addiction France. Bonjour et bienvenue. Bonjour également à Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale.
Bonjour Saskia.
Et par téléphone, j'accueille Zoé Dubus, docteur en histoire contemporaine et historienne des psychotropes. Bonjour Zoé Dubus.
Bonjour.
Et également avec nous, François Diot, hypnothérapeute et ancien chef de service du CARUD, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Vous avez tous les quatre entendu cette introduction, ces chiffres. Comment dire, la France punit plus que ses voisins, mais consomme autant, voire plus. Doit-on parler d'échec de la prohibition? Agathe Foucault.
Alors, vous le dites, la consommation est en hausse de stupéfiants, en particulier au cours de la dernière année. Selon une étude de 2023 que vous évoquiez, donc la consommation de cannabis est en hausse. Un adulte sur deux a déjà consommé du cannabis. 900 000 personnes, 900 000 adultes en consomment quotidiennement, selon cette étude de 2023. Pour la cocaïne, on est également sur une augmentation, puisque un adulte sur 10 en avait déjà consommé. 3% en avaient consommé au cours de l'année, et sur les drogues de synthèse, c'est le même constat, puisque en 2000, me semble-t-il, 1% de la population adulte de 18 à 64 ans en avait consommé, et en 2023, on est à 1,8%.
Alors, doit-on parler d'échec de la prohibition dans ce cas?
Alors, on constate effectivement une augmentation de la consommation, une augmentation également des saisies qui sont faites. Par exemple, pour la cocaïne, en 2024, on a plus 130% de cocaïne qui a été saisie. Sur les drogues de synthèse, c'est la même chose, 120%. Donc effectivement, on a une consommation et des saisies qui sont en hausse, avec une action de la police nationale qui est également très importante, à la fois sur le consommateur et sur les trafiquants.
Vous souhaitez réagir?
Oui, donc
Nelly David.
Oui, merci. Alors effectivement, on consomme une hausse. On constate une hausse des consommations qui, en tout cas, du point de vue d'Addiction France, sont un échec à la prohibition. Aujourd'hui, on sait que la prohibition ne fonctionne pas. Et Association Addiction France a fait des propositions. Il y a eu un rapport parlementaire qui a débouché sur la loi sur le narcotrafic, qui précise qu'il est important de revoir ces approches avec la légalisation du cannabis et la, en tout cas au niveau d'Addiction France, la dépénalisation de l'ensemble des drogues. Par contre, légalisation encadrée et Et pareil pour la dépénalisation. Donc aujourd'hui, oui, pour nous, c'est un échec. Maintenant, il faut être clair. En tout cas, au sein d'Addiction France, on est assez clair là-dessus. Il faut faire la guerre au narcotrafic. Et ça, c'est pas un sujet. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup trop d'ampleur. En 10 ans, au niveau de la cocaïne, on assiste à une vague extrêmement importante avec, vous l'avez énoncé tout à l'heure, des multinationales illicites. On peut parler de multinationales. Ce matin, il y avait un article du Monde qui parlait des points de deal numériques. Enfin, tout ce qui était le darknet, tout ce qu'on a connu dans les années 2000-2010, maintenant c'est fini. Maintenant, c'est par WhatsApp, par d'autres que ça monte. Donc, on doit à cette évolution aussi de ce narcotrafic s'adapter. Au sein d'Addiction France, on est très clair que légaliser il faut arrêter de taper sur les consommateurs. Ce n'est pas un droit de consommer, c'est un droit de déstigmatiser l'ensemble des consommateurs.
Zoé Dubus.
Oui, alors je trouve étonnant de reposer encore cette question en 2025. Est-ce que la prohibition est un échec? On le sait depuis au moins une trentaine d'années grâce à tous les travaux qui s'intéressent à cette question, que ce soit en sciences humaines, mais aussi en sciences biomédicales. Donc effectivement, la prohibition est un échec. On le sait aussi depuis le début du XXe siècle avec les tentatives de prohibition de l'alcool aux États-Unis et au Canada. Donc on sait que ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, c'est intéressant de parler des augmentations de la consommation, mais ce qu'il faudrait, c'est aussi se questionner sur les conséquences de cette augmentation. Est-ce qu'il y a plus de risques? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui prennent des risques avec leur consommation? Peut-être pas. Et en fait, on sait aussi depuis de nombreuses années que la majorité des usagers qui consomment des psychotropes et des stupéfiants n'ont aucun problème avec leur consommation, la maîtrisent et n'ont de conséquences négatives que celles qui sont posées par la prohibition. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner aussi. Ne pas simplement dire la consommation augmente, mais est-ce que cette consommation qui augmente a des conséquences négatives? Et la réponse, bien souvent, est non.
Et je crois que vous citez ce chiffre, hein, 80% des consommateurs de psychotropes ne développent pas d'addiction. Une réaction, François Diot?
Écoutez, moi je pense, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Moi je pense pas qu'il faille poser le débat comme ça en fait. C'est très binaire et puis je pense que ça fait pas vraiment évoluer la réflexion. La question qui peut se poser, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue en fait. Alors oui, j'entends très bien ce qui est dit par les différentes invitées. Une hausse des saisies, une hausse de la consommation. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la réponse thérapeutique qui est proposée et surtout comment accompagner au mieux, plutôt que d'opposer un système répressif qui serait inefficace. Bah, s'il était si inefficace, je pense que tous les gouvernements mondiaux ne seraient pas dans cette logique, si vous voulez. Il y a des expériences, et on peut se baser là-dessus, qui ont été tentées et qui sont intéressantes. Au Portugal, entre autres, il y a une expérience aussi à Portland, dans l'Oregon, en 2021. La municipalité a décidé, quoi, l'État plutôt, a décidé de légaliser la détention de certaines quantités de drogue, y compris de drogue dure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont revenus en arrière quelques années après, en constatant que la réponse thérapeutique n'était pas suffisante face à l'augmentation de cette consommation. Donc moi, je ne sais pas, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'il faut débattre, il faut expérimenter, il faut surtout, à mon avis, essayer de sortir de ce prisme pour ou contre stigmatisation, non stigmatisation. Si vous voulez, c'est un débat que j'entends depuis les années 80. Moi, je suis un vieux militant de la réduction des risques. J'ai un parcours un peu particulier, mais parce que j'ai été moi-même usager de drogue et que je suis abstinent depuis 30 ans, j'ai travaillé en réduction des risques. J'ai même fait partie de la commission d'audition 2.0 sur cette question. Et j'étais très favorable, par exemple, à l'expérimentation des salles de consommation supervisées. Aujourd'hui, mon point de vue est plus nuancé. J'ai travaillé aussi avec un autre modèle thérapeutique en Angleterre, comme thérapeute dans un centre de traitement. C'est un modèle thérapeutique qui n'est pas du tout développé en France, malheureusement, et qui a des résultats. Donc moi, je pense plutôt que d'opposer il faut essayer de réfléchir comment améliorer l'accès aux soins, la prévention et la répression aussi du narcotrafic. Et surtout qu'il y ait un discours qui n'oppose pas les trois ministères qui sont concernés, parce que c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est stérile. On n'a pas opposé la santé, la justice et la sécurité publique. Il faut essayer de voir comment on peut travailler efficacement.
Et puisque vous évoquez l'étranger, François Dieu, j'ai envie de vous lire ce message d'un auditeur, Paul Rechatin, médecin généraliste, qui nous écrit ceci. On n'améliorera jamais la situation tant qu'on ne comprend pas que le problème n'est pas la drogue, mais ce qui y mène, isolement social, misère, dépression. Il me semble que les pays du Nord ont répondu à une hausse des addictions chez les jeunes en leur vendant du rêve, activités sportives ou créatives obligatoires jusqu'à 18 ans. La consommation s'est effondrée. Je me tourne vers vous, Nelly David, directrice générale d'Addiction France. Est-ce qu'il y a des pistes, des solutions à trouver en se tournant vers l'étranger ?
Complètement. Peut-être juste... Alors, totalement, on a le modèle canadien qui est très intéressant, pour lequel on a un peu de recul. On a l'autre intervenant en parlait, le modèle portugais, qui est aussi intéressant. Juste un point, c'est qu'il faut avoir une approche globale. On ne peut pas juste parler des personnes, il faut parler aussi de l'environnement dans lequel elles sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas au sein d'Association Addiction France, nous pensons qu'il faut avoir des politiques de santé publique qui soient beaucoup plus ambitieuses que celles qui existent aujourd'hui. Et oui, il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, et ce d'autant plus qu'on le voit en Europe, les choses bougent, en Allemagne, le Portugal, je mettrai la Hollande de façon un peu à part, mais le Canada est un bon exemple, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous reprendriez justement dans ces politiques de santé publique étrangère ?
Pardon. Déjà, le premier élément, c'est par rapport au cannabis, une légalisation de la consommation de cannabis, et où on sort d'une approche où aujourd'hui, une personne qui consomme du cannabis peut avoir soit une amende, soit pouvant aller jusque l'emprisonnement, mais je ne suis pas... Madame le saura mieux que moi. Donc ça, aujourd'hui, il faut une légalisation encadrée, c'est-à-dire que ce ne seront pas, dans notre vision des choses au sein d'Association Addiction France, les bureaux de tabac qui vendront du cannabis, pas du tout. Il faut que ce soit, et ça avait été proposé, je crois, par les parlementaires avec une approche transpartisane, avec sûrement une régie publique qui gérerait cette approche-là, et une dépénalisation des autres drogues où, on ne sanctionne pas une consommation. Par contre, on sanctionne le trafic, etc.
Et on va continuer à en parler, évidemment, jusqu'à 12h45 sur France Inter. Je vous propose un titre de la playlist France Inter. Ici, ce titre de Philippe Catherine, Une chambre à moi.
Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert. Aussi vert que mon jardin. Devant ma chambre, à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. quand je joue c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illigère. Je voudrais une chambre à moi.
Et c'était, vous avez reconnu sa voix, Philippe Catherine, ici pour ce titre, Une chambre à moi sur France Inter. Il est midi et 19 minutes.
France Inter. Le débat de midi.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis une consommatrice de drogue et je vais bien. J'ai envie que la société aille bien aussi et c'est pour ça que je voudrais dire que je suis contre la répression. D'abord parce qu'elle ne nous aide pas à rester en bonne santé, au contraire. Ce qui nous aide à rester en bonne santé, c'est l'information sur les produits, les dosages, les mélanges, tout ça. C'est avoir des produits de qualité et pouvoir trouver de l'aide en cas de problème.
Voilà le message de notre auditrice Mathilde dans le débat de midi. Zoé Dubus, c'est un message que vous entendez, auquel vous vous intéressez ?
Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte. Il faut changer nos représentations sur les usagers de stupéfiants et prendre en compte vraiment les données scientifiques, arrêter d'avoir une conception morale sur ces questions. On sait que plus de 80% des usagers n'ont pas de problème avec leur consommation. On sait que ce qui fonctionne, c'est la réduction des risques. Donc, c'est donner des bonnes informations aux gens pour qu'ils consomment des substances avec les normes scientifiques qui permettent de les consommer de manière sûre, de contrôler les substances, donc de pas les laisser sur le marché noir où les produits vont être coupés, où il va y avoir une grande variation dans la puissance des produits. C'est exactement ça qui est vraiment en cause dans les overdoses, hein, c'est la variabilité, par exemple, de l'héroïne. Un jour, on va avoir une héroïne qui va être pure à 20%, et le lendemain, une héroïne qui sera pure à 30%, et c'est à ce moment-là qu'il y aura des overdoses. Donc, on sait tout ça. Il faut vraiment que ces informations elles soient prises en compte au niveau politique. Il y avait un intervenant précédemment qui disait « Oh, bah, si vraiment la prohibition ne marchait pas, les États ne continueraient pas dans cette décision. » C'est vraiment totalement faux. Hein. On sait qu'en France, il y a une difficulté politique à vraiment penser une évolution de la législation, parce qu'il y a des enjeux électoraux qui sont très forts et que pour l'instant, pour une partie de l'électorat, c'est impensable de changer de logique. Mais il faudrait prendre en compte les données scientifiques. Et c'est très intéressant aussi d'avoir une femme qui s'exprime, là, une de vos auditrices qui s'exprime sur ces sujets, parce que les femmes sont totalement invisibilisées dans les représentations qu'on a sur les consommations de drogue, où on voit plutôt des hommes aussi marginalisés, en grande précarité. Il y a une sociologue qui s'appelle Sarah Perrin en France qui travaille sur les femmes insérées et dealeuses de stupéfiants. Donc voilà, c'est des travaux qui sont très intéressants et auxquels il faut se confronter pour changer nos représentations.
La politique de prévention est-elle à la hauteur ? C'est un petit peu ça qui se pose comme question. Je me tourne vers vous, Agathe Foucault. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la police nationale.
Alors, la politique de prévention, elle relève pas directement du ministère de l'Intérieur et de la police nationale. C'est vraiment une question qui est pilotée par les ministères de la Santé. En tout état de cause, il ne faut pas penser que consommer de la matière stupéfiante est anodine. Dans 20% des accidents mortels de la circulation, c'est 700 morts par an, la consommation de stupéfiants est présente. Donc au-delà de l'acte individuel, les conséquences peuvent être extrêmement lourde et extrêmement grave. Et par ailleurs, lorsqu'on consomme du stupéfiant, on entretient un trafic, on participe à un trafic, et on voit aujourd'hui, là encore, les conséquences sont dramatiques avec des mineurs qui sont utilisés tant pour vendre du produit stupéfiant que pour ensuite commettre des représailles. On a des quartiers qui sont pollués par le trafic de stupéfiants, avec des habitants qui ne peuvent pas accéder directement à leur appartement. Donc, le consommer du stupéfiant, ça ne relève pas uniquement d'une liberté individuelle. Les conséquences sont très lourdes pour l'intérêt général et pour la sécurité publique. Et c'est vraiment dans ce débat qu'il faut se positionner.
Zoé Dubus.
Oui, je voulais juste intervenir très rapidement. C'est effectivement, il faut lutter contre les trafics. Il y a plein de problèmes qui sont posés par ces trafics, qui sont causés par la prohibition. Si on avait un autre système, cette prohibition qui n'existerait pas permettrait de gérer de manière plus normal les productions de ces substances psychotropes, mais il y a aussi un angle mort en fait dans cette question de la dangerosité et des problèmes que peuvent causer les psychotropes en général dans nos sociétés, qui est un impensé en France, mais par exemple dans les vignobles, on fait venir des personnes immigrées qui n'ont pas de salaire, qui ont un salaire qui est très bas, ne cotisent pas pour la sécurité sociale, etc. Donc les vignobles français se servent de ces travailleurs clandestins, de ces travailleurs immigrés aussi pour pouvoir produire du vin. Donc les problèmes qui sont posés par le trafic de stupéfiants, il faut pouvoir aussi les penser pour les substances qui sont légales.
Et vous l'entendez, cela concerne énormément de domaines. Je vais revenir sur ce que vous disiez, Agathe Foucault, par rapport au fait que cette politique de prévention concerne plus le ministère de la Santé. On a quand même Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti qui depuis déjà 2 ans s'expriment sur le sujet. Je vous propose d'en écouter quelques extraits.
S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Il faut responsabiliser les consommateurs.
S'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de vente, il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas d'enfant de 10 ans qui serait tué. Donc quand on fume un joint ou quand on prend un rail de coke, y compris dans les beaux quartiers, parce que c'est souvent une consommation de beaux quartiers, on est aussi responsable de cette situation.
Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir.
Est-ce qu'on ne va pas trop loin, Agathe Foucault, dans la stigmatisation des consommateurs et quel est l'effet réel de ce type de message ?
La responsabilisation du consommateur, effectivement, elle est essentielle aujourd'hui. En 2024, pour les services de police, on a relevé 135 000 amendes forfaitaires délictuelles, donc qui sanctionnent sur le terrain, très concrètement, un individu qui est contrôlé avec de la matière stupéfiante. C'est une augmentation, puisqu'en 2000, on a 20% d'augmentation par rapport à 2023. Donc effectivement, aujourd'hui, on responsabilise le consommateur parce qu'il appartient à un trafic. Mais l'action de la police nationale, c'est également de s'intéresser aux trafiquants. Évidemment, on le fait.
C'est ça que j'allais vous demander, est-ce que ça ne conduit pas à un éparpillement des moyens des forces de l'ordre ?
Alors, négatif, l'action de la police, elle est complémentaire à la fois, elle est sur le terrain et puis à la fois dans le travail judiciaire. Là encore, en 2024, on a 21 000 personnes qui ont participé au trafic de stupéfiants qui ont été interpellées. C'est 85% de l'ensemble des mises en cause sur le territoire national. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on consomme du stupéfiant, c'est qu'on participe au trafic. Et effectivement, comme pour tout produit, s'il n'y a pas de demande, l'offre n'est pas si importante.
François Diot, vous nous l'avez dit, ça fait un petit moment que vous travaillez dans ce domaine, que vous vous intéressez à ces questions. Est-ce qu'il y a une évolution, justement, dans la stigmatisation des consommateurs ?
Moi, je ne sais pas si on parle... Bon, je pense que, si vous voulez, l'histoire de la victimisation, c'est un vieil argument qui est très utilisé sur différentes problématiques, qui clôt un peu le débat, je trouve. Moi, je vais vous dire, je connais plein de consommateurs ou ex-consommateurs qui ont arrêté de consommer, des gens comme moi, qui sont un jour rentrés dans une salle d'un programme de 12 étapes, comme les narcotiques anonymes, qui étaient héroïnomanes, comme moi d'ailleurs, pendant 15 ans, et qui ont arrêté. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, à ce discours victimaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut aider correctement les personnes et ouvrir des perspectives.
Et quelles sont vos perspectives, François Diot ?
Moi, mes perspectives, c'est essayer déjà de travailler, non pas en opposant la santé, la répression et la justice, ce serait quand même intéressant, il y a une mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives, qui devrait quand même être un espace de régulation et de débat où les enjeux soient autres que politiques, si vous voulez, sur cette question qui est éminemment politique. Je vous donne juste un exemple. Imaginons qu'un jour, prochain ou pas, les drogues y compris les drogues dures, soient légalisées. Donc on sort d'un cadre de santé publique pour entrer dans un cadre économique où, vous imaginez, le représentant du cartel de Sinaloa en train de négocier le prix de la tonne de cocaïne auprès d'une organisation comme l'Organisation mondiale du commerce. Je vous pose la question.
Une réaction peut-être à Agathe Foucault ?
Nelly David.
Nelly David, excusez-moi.
Je réagis avec plaisir.
Voilà, mais réagissez, je vous en prie, bien sûr. Alors, Agathe Foucault et puis Nelly David,
excusez-moi. Volontiers la parole, non, simplement, l'exemple de monsieur, effectivement, interroge. Toutefois, il faut quand même comparer, on l'a déjà fait avec les pays étrangers qui ont, pour certains, légalisé et dépénalisé. En réalité, le trafic de stupéfiants n'est pas du tout éradiqué, pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on légalise, on légalise à un certain taux, notamment pour le cannabis de THC, qui sont des taux qui sont a priori plutôt faibles. Donc, on a forcément tout le marché qui continue sur des taux plus élevés. Et puis, on n'autorise pas non plus la vente aux mineurs, donc nécessairement, on a tout le marché qui se destine aux mineurs qui continue. Et par ailleurs, les études montrent que, d'une part, la consommation donc, de produits légaux, de produits autorisés, augmente au fil des années, et que la consommation de produits qui restent illégaux augmente également.
Une réaction, Nelly David.
Oui, donc je peux peut-être réagir sur tout d'abord plusieurs éléments. La stigmatisation, c'est pas juste, excusez-moi, un fantasme. Moi, je suis directrice générale d'une association et je le vois tous les jours au sein de nos structures. Et les collègues qui gèrent des structures qui accueillent notamment des usagers de drogue, et je passe toute ma sympathie aux collègues de Aide, ont été en très très grande difficulté. Là, ils ont déménagé au Hall. Ça se passait très bien depuis des années. Ils n'ont pas pu réaménager sur un site qui était organisé, pareil, sur Bordeaux. Et ça, c'était en 2024 et en 2025. Et on n'est pas du
tout... C'est de la réaction des riverains ?
Complètement. C'est pas du tout une victimisation de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des structures qui sont professionnelles, avec des médecins, des éducateurs, des psychologues, etc., des professionnels diplômés d'État qui savent ce que sont les addictions et comment on les soigne, comment on les accompagne. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que il est très, très complexe aujourd'hui, dans certaines villes, je dirais dans les villes en général, d'implanter des structures pour usagers de drogue. La preuve, les haltes soins addiction qui devaient être réalisés, notamment à Bordeaux et à Marseille, n'ont pas pu être réalisés.
Donc, et qu'est-ce qui explique ça, Nelly David ?
Alors, si j'étais un peu cash, je parlerais de courage politique local, et avec une approche, tout à l'heure, l'autre intervenante le précisait.
Zoé Dubus ?
Oui, pardon, plutôt électoraliste que de santé publique. C'est aussi, enfin, excusez-moi, mais c'est assez basique. Et hélas, aujourd'hui, lorsqu'on aura une approche qui ne portera que sur une stigmatisation, une victimisation, victimisation dans les fantasmes, dans les représentations des personnes. Il faut être responsable, il faut être pragmatique aussi. Il faut être très, très pragmatique.
De quelle façon ?
Ben, aujourd'hui, clairement, vous donniez des chiffres, les 1200 amendes par jour, c'est ça, je crois, par
100,
jour.
J'ai dit 130 000 en 2024.
Ouais, voilà, donc ça fait à peu près 1200 amendes par jour pour 900 000 personnes qui consomment tous les jours du cannabis.
Du cannabis.
Aujourd'hui, la problématique en France, c'est qu'on a 90% des interpellations qui se font par la police. Elles se font auprès des consommateurs. C'est les chiffres de l'OFDT de 2022. 10% se font auprès des trafiquants. Comment est-ce qu'on change de paradigme ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui consomme, 20% des personnes qui consomment aujourd'hui en France des drogues dites illicites et non dures, on dit illicites, hein, ont des problématiques d'addiction ? C'est le même taux que pour l'alcool. Donc aujourd'hui, on a un changement de paradigme à avoir. On a un changement de regard à opérer au sein de notre société avec un regard qui est issu de la science. Et ce que je dis, ce ne sont pas mes convictions, ce ne sont pas des positions d'Addiction France qui sont prises comme ça. C'est issu de la science. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, en qualité de directrice générale, extrêmement importante. Voilà, je m'arrêterai là, je ne vais pas trop prendre la parole.
Midi 32, vous écoutez toujours le débat de midi, on va faire une pause musicale avec ce titre « Why should I smile » de Roseau et Mélissa Lavo.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I have no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine,
tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for former lovers in my crimes. Should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you. I'm better off without you.
Rozo et Mélissa Lavo ici pour ce titre Why Should I Smile?
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Et nous sommes toujours en direct sur France Inter pour le débat de midi. Légalisation ou dépénalisation des drogues, doit-on se diriger vers un changement de paradigme? Doit-on changer de regard? On se pose la question, on en débat avec nos invités. Nelly David, directrice générale de Addiction France. Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale, et au téléphone Zoé Dubus, docteur en histoire contemporaine et historienne des psychotropes. Et François Diot, hypnothérapeute et ancien chef de service d'un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et puis vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, un auditeur d'ailleurs nous a laissé ce message.
Bonjour, je suis le coordinateur d'une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Psychédélicaire et dont l'objectif est de pousser la Commission européenne à réglementer les thérapies assistées par psychédéliques. Et ma question pour les intervenants de l'émission serait de savoir comment pourrait infléchir cette législation vis-à-vis des psychédéliques, dont on sait très bien aujourd'hui qu'il s'agit de substances non addictives et qui sont injustement classées dans la catégorie la plus restreinte.
Voilà, faut-il revoir la catégorisation de tous ces produits. Voilà le message d'Alexis. Zoé Dubus, je me tourne vers vous. Vous êtes au téléphone. Vous souhaitez répondre à notre auditeur?
Oui, je voudrais juste, ça va très bien avec, donc rebondir sur ce que Madame Nelly David vient de dire au sujet des drogues dures, drogues douces. C'est vrai que c'est très important d'arrêter de parler de drogues dures et de drogues douces. Il y a des pratiques qui le sont, mais les substances ne le sont pas en elles-mêmes. Il y a par exemple des gens qui vont consommer de l'héroïne une fois ou deux dans leur vie, ou quelques fois dans l'année, et qui ont donc une pratique douce de leur consommation. Et d'autres personnes qui vont devoir consommer du cannabis très, très fortement dosé dès le matin pour pouvoir aller travailler, et qui auront donc une pratique dure. Donc la distinction drogue dure, drogue douce, elle est fausse. Ça a été très bien démontré scientifiquement depuis des décennies. Et donc on en vient à la question de votre auditeur au sujet des thérapies assistées par psychédéliques qui sont très intéressantes, qui montrent depuis là aussi une vingtaine d'années des résultats qui sont positifs dans un certain nombre de pathologies pour lesquelles on a un échec thérapeutique pour un pourcentage élevé de patients. Donc la France est très en retard sur ces questions et donc il y a cette initiative européenne qui est lancée. Vous pouvez aller sur Psychédélicaire, sur Internet, pour signer la pétition, pour réclamer qu'il y ait des études qui soient faites un peu plus plus sur ces substances, où il y a deux essais cliniques qui sont en cours en France, hein, sur la psilocybine. Et effectivement, les psychédéliques font partie des substances psychotropes qui sont classées parmi les moins dangereuses des stupéfiants. Et ces classifications, elles sont très intéressantes parce que depuis 1998, et pour le coup, on était pionniers en France, c'est le Bernard Roque qui a fait ce premier rapport commandité par Bernard Kouchner, qui étudiait la dangerosité de tous les produits, qu'ils soient légaux ou non. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'alcool, le tabac, mais aussi les médicaments psychotropes, comme les benzodiazépines, étaient beaucoup plus dangereux que plein de substances illicites, ce qui démontre encore une fois l'absurdité de la prohibition et la nécessité de revoir nos politiques sur ces sujets.
On parle de classification et c'est vrai, il y a ce que Zoé Duluth vient de nous dire, mais aussi l'essor des drogues, des synthèses. On parle beaucoup de nitazène, notamment pour le moment. Depuis 2008, 450 nouveaux produits de synthèse ont été répertoriés en France. Comment est-ce qu'on peut suivre niveau politique? Comment est-ce que vous, de votre côté, Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale, vous vous mettez à jour en quelque sorte?
Alors, la police nationale est au contact de la population, hein, c'est le propre de notre métier, c'est de protéger nos concitoyens, donc c'est évidemment pas des problématiques qu'on ignore. On prend en compte, en fonction des évolutions législatives, ce qui est considéré comme une substance illicite et ce qui ne l'est pas. C'est pas à nous de déterminer qu'est-ce qu'il est légal de consommer et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais effectivement, on a un travail d'analyse qui est permanent, avec notamment l'Office central anti-stupéfiant, l'OFAST, qui fournit aussi ce travail d'analyse, et la police nationale applique la loi et donc sanctionne la consommation et le trafic des produits qui sont définis comme illégaux.
Vous constatez ça, vous, Nelly David, directrice générale de Addiction France, justement cette évolution, on a du mal à suivre avec tout ce qui arrive sur le marché?
Oui, forcément. Nous gérons 14 CARUT. Les CARUT, c'est des structures pour usagers de drogue. Et nous avons sur une région un laboratoire d'analyse de drogue sur le milieu festif. Donc forcément, on voit, et ce sont les usagers, les consommateurs, qui, entre guillemets, nous apprennent ce qu'ils consomment. Et c'est eux qui nous précisent ce qu'ils consomment. Donc forcément, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais régulièrement, il y a une évolution extrêmement importante des produits. Tout à fait.
Zoé Dubus.
Oui, je voudrais réagir sur cette question des produits de synthèse. C'est une question qui est passionnante parce qu'en fait, le réflexe prohibitif fait qu'on interdit des substances dès qu'elles sont qu'elles arrivent aux oreilles du gouvernement sans faire d'études sur ces produits. Et ça revient à la question des psychédéliques. On ne fait pas d'études sur ces produits. Donc, non seulement on ne sait pas exactement à quel point elles peuvent être dangereuses pour les usagers, et parfois elles sont en fait moins dangereuses que des substances illégales qui sont sur le marché. Ça a été très bien étudié, par exemple, pour la méphédrone quand elle est arrivé au début des années 2000, les consommateurs qui étaient plutôt portés sur la cocaïne ont changé de substance et sont passés à la méphédrone parce que c'était moins dangereux, parce qu'ils avaient des effets qui étaient plus positifs et des substances qui étaient plus pures. Et puis finalement, on a classé la méphédrone dans le tableau des stupéfiants et les gens sont repassés à la cocaïne. Donc il y a des enjeux comme ça de santé publique qui sont très intéressants sur ces nouveaux produits de synthèse, mais aussi des enjeux thérapeutiques, puisque comme on ne fait pas d'études sur ces produits, peut-être qu'on se prive de substances qui pourraient être intéressantes d'un point de vue thérapeutique.
François Diou, vous êtes toujours avec nous, hypnothérapeute.
Oui.
Vous m'entendez? Pardon.
Oui, je vous entends.
Vous souhaitez réagir?
Écoutez, moi je trouve très intéressant de faire de la recherche et d'utiliser, y compris des produits. Moi j'ai entendu parler de ces recherches et je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Si, je sais que dans la dépression, certains produits prohibés peuvent avoir une incidence et que certains pays sont plus avancés que nous en France. Donc moi, je suis pas du tout opposé. Je trouve que l'analyse des produits est quelque chose d'absolument indispensable, comme la réduction des risques. Moi, si vous voulez, j'ai rien contre la réduction des risques. Au contraire, elle est efficace. On l'a vu sur la baisse de contamination par le sida. On l'a vu sur la baisse par la contamination par les hépatites et l'hépatite C en particulier. Aujourd'hui, le sida se soigne, l'hépatite C se guérit. Donc, c'est pas ça que je veux remettre en question, qu'on ne fasse pas tenir un discours qui n'est
Alors,
pas
qu'est-ce
le
que vous voulez remettre en
ce
question, que François Diou?
Ce que j'interroge, moi, en fait, si vous voulez, c'est le dispositif tel qu'il est organisé aujourd'hui, sur plusieurs aspects. Je pense qu'on pourrait l'évaluer. Si on était dans une culture de l'évaluation, on aurait probablement de meilleurs résultats. Je donne deux exemples, parmi tant d'autres. l'orientation des usagers de Carud au XAPA, une structure d'accueil de proximité avec des gens qui consomment, vers une structure de soins où la prise en charge est psychothérapeutique, avec ou sans hébergement, avec ou sans traitement de substitution. L'organisation du soin en ambulatoire en France, elle est insuffisante. C'est pour ça que moi, je pense qu'on devrait s'ouvrir à, aussi, en complément, d'autres approches comme les centres de traitement. Les centres de traitement qui sont validés scientifiquement partout dans le monde. En Angleterre, aux États-Unis, c'est très intéressant de concentrer dans le même endroit un espace où on peut se désintoxiquer, où les délais d'admission sont plus courts. La problématique des usagers de drogue, c'est les délais d'admission entre les services et aussi à l'hôpital. C'est ça qui est scandaleux.
Et puis sans doute aussi la passerelle entre les haltes soins addiction et vers un parcours de soins.
Mais justement, c'est ça la problématique. Vous me parlez de science. Moi, j'ai rien contre la science. Au contraire, j'ai lu le rapport de l'INSERM, j'ai lu le rapport de l'IGAS, j'ai lu le rapport des Hospices de Lyon. J'ai même travaillé sur un décryptage de tous ces rapports, figurez-vous. Eh bien, ce que je peux constater simplement, c'est que, en fait, l'orientation des structures comme les haltes soins addiction vers le soin est insuffisant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malheureusement, depuis 2016, il y a deux structures en France, une qui ne semble pas poser de problème, parce qu'elle est à l'extérieur de la ville, près d'un hôpital, c'est la halte soins addiction de Strasbourg, qui a l'air de faire un travail tout à fait remarquable, et celle de Paris. Celle de Paris est au milieu d'un espace habité près de la gare du Nord. Il suffit d'aller sur le compte Twitter d'un collectif de riverains qui habitent autour de cette salle.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, François Diot. Excusez-moi, l'heure avance, je vais devoir vous reprendre la parole, peut-être pour un dernier mot à chacun de vous quatre. Quelle serait votre première mesure? Allez, vous pourriez tout changer. Quelle serait votre première mesure pour mieux aider les personnes dépendantes? Un mot à chacun, rapidement, s'il vous plaît, Nelly, David.
Alors, ce sera plusieurs mots. Sortir de l'approche moraliste et être ambitieux et courageux.
Agathe Foucault.
Alors, la police nationale n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, en tout cas pour le définir. En tout cas, nous, on applique le droit. Aujourd'hui, consommer de la matière stupéfiante est interdite.
Zoé Dubus.
Alors, pour moi, il faut nationaliser la production et le commerce des substances psychotropes, de toutes les substances psychotropes, faire de l'argent pour contrôler la qualité des produits et pour permettre aux personnes d'avoir des bonnes informations qui leur permettent de consommer de manière sûre et puis prendre en compte les données scientifiques.
Alors, c'était un petit peu plus qu'un mot, Zoé Dubujon, pour la parole, pour laisser la parole. Allez, un mot, François Diot.
Évaluer le dispositif de soins, conditionner les subventions à la réalisation d'objectifs définis.
Merci beaucoup.
Développer l'offre de soins en centre de traitement en France.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci évidemment à ma formidable équipe du débat de midi. Émission réalisée par Antoine Larcher avec à la technique David Diboué Black.